Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même, Kevin Laramé et Tristan Damour en studio encore une fois cette semaine. Ça va Tristan?
Ça va bien, ça va bien.
Grosse semaine pour l'Impact, deux matchs joués la semaine dernière, mercredi contre les Taureaux Rouges du New Jersey et samedi contre les Rois de la Ville-Reine, je dirais, ou plutôt les Lions de la Ville-Reine, Cincinnati. Une victoire, une défaite, Montréal conserve son rang au troisième échelon dans l'Association de l'Est. Une belle semaine quand même, Tristan?
Oui, c'est un peu sous le signe de la controverse, mais si on parle de Cincinnati, Red Bulls, mission accomplie, le jacket est à 3-0-0. Si je vais mourir sur un... If there's a hill I'll die on, ça va être celle du jacket. Mais oui, on marchait un peu sur des œufs. C'est toujours un terrain glissant contre un nouvel entraîneur. Et on perd celle-là, mais reste que c'est une... On peut dire que c'est quand même positif de frapper pour 500 pour une semaine.
Oui, c'était la troisième fois cette saison où l'Impact disputait 3 matchs en 8 jours. Et pour la troisième fois, quand même un résultat assez positif durant ces semaines chargées pour l'Impact. Toujours au moins une victoire et quand même des résultats assez intéressants. On va regarder le classement dans quelques minutes. Rapidement, contre les Red Bulls, l'Impact a su être opportuniste et a su sortir avec 3 points au New Jersey. Une victoire volée, non, mais quand même, je dirais, l'Impact a été opportuniste quand c'était le temps. Revenons sur la défaite, par exemple, contre Cincinnati. Yoann Damet, ancien entraîneur-chef des U18 de l'Impact de Montréal de l'Académie, faisait ses débuts en tant qu'entraîneur intérim pour le FC Cincinnati, le plus jeune entraîneur de l'histoire de la MLS, 29 ans, et il devient Tristan le plus jeune entraîneur de la MLS à avoir une victoire contre son ancienne équipe. Je suis quand même content pour Yoann Damet, mais c'est 3 points perdus quand même pour l'Impact.
Ouais, mais Yoann Damet qui on l'appelait déjà le boss dans le vestiaire du FC Cincinnati. Il ne faut pas oublier Jack Stern aussi, ancien entraîneur des gardiens de but du FC Montréal, ancien entraîneur des gardiens de but de l'Impact de Montréal aussi, qui a toute une histoire, honnêtement. Faut être content pour eux autres. Faut vraiment, tu sais, et y a quand même quelque chose de bien à Cincinnati qui se présentait. Même du temps en USL, il y avait énormément de monde qui s'était présenté. Je me rappelle, Kevin, qu'on était très sceptiques du fait que le FC Cincinnati allait fonctionner même en USL. Et là, ils fonctionnent en MLS. C'est tant mieux pour eux. Mais comme je m'en l'ai dit, j'ai tweeté dès le coup de pied initial. Ça allait être difficile pour l'Impact. C'est glissant contre un entraîneur jeune, un entraîneur assez fougueux. On a vu le FC Cincinnati vraiment sortir. Et... je veux dire, je veux pas me mettre à la place de Rémi Garde, mais dans les 15 premières minutes, il fallait les regarder, il fallait défendre, il fallait éviter un but dans les 15 premières minutes. Qu'est-ce qui est arrivé? On a marqué dans les 10 premières minutes, Kevin.
Ouais, à la 7e minute pour un deuxième match de suite, l'Impact concède tôt dans le match.
C'était encourageant de voir la défense à 3 défenseurs centraux à New York. On a retenté l'expérience à Cincinnati et Kevin, sur le premier but, les 3 défenseurs centrales, c'est des crapets soleil. Là.
on dirait qu'ils ont regardé le ballon et ont été pris à regarder le ballon. Ils sont restés. Ils ont poigné le fixe sur le ballon, pour être un bon français.
Oui, ouais, non, c'est. Et même Zachary Bourguillard qui a été pris aussi, qui a été pris un peu dans l'action. Je pense que c'est Darren Mattock qui était rentré dans l'axe du flanc gauche. C'est difficile, mais là on a une semaine pour revenir au jeu et encore une fois on se fait prendre contre une équipe qui a un nouvel entraîneur et on s'entend que c'est pas n'importe quel entraîneur, c'est Bruce Arena.
Non, on va en parler dans un petit instant.
On va en parler, oui, exactement. Et là, le constat, c'est est-ce qu'on va retenter le système avec 3 défenseurs centraux? Moi, de ce que j'ai pu comprendre de Rémi Garde, les 3 défenseurs centraux, c'était plus par disponibilité de joueurs,
ouais,
que par génie tactique, que par décision décision de Rémy Garde. J'ai l'impression qu'on va revenir avec un 4-3-3. Il y a des joueurs qui sont plus en santé maintenant. On a des signes encourageants. On a vu Nacho Piatti s'entraîner. Moi, à mon avis, la raison pourquoi il s'est pas entraîné hier, c'est à cause de l'échographie qu'on a su par après. Ouais. Parce qu'une échographie, faut vraiment rester amorphe quasiment dans ta journée pour avoir les meilleurs résultats. Donc, beaucoup de monde hier était vraiment, vraiment, vraiment déçu. Hier mardi, pour ceux qui écoutent un peu plus tard. Mais aujourd'hui, mercredi, avec ce qu'on a vu de l'entraînement, ça a l'air prometteur.
Je pense que les résultats de l'échographie sont positifs et je pense que c'est une échographie préventive. Je pense que c'est une échographie qui servait à savoir le pourcentage de savoir si Nacho est prêt, dans le fond, savoir à quel point il est prêt. Et je pense que cette échographie a donné le feu vert à Nacho Piatti pour y aller à 100% ce matin. C'est pas vrai que du jour au lendemain, on se retrouve à ne pas être à bien, et ne pas être capable de courir et à pratiquer de la manière qu'il a fait ce matin. Je pense que c'était vraiment juste pour confirmer son état de santé et pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'aggravation de blessure si jamais il effectue un retour au jeu ce samedi. Tu mentionnais un nouvel entraîneur, et oui, et pour la troisième fois en une semaine et demie, un nouvel entraîneur a été nommé dans la MLS, et pour un deuxième match de suite, l'Impact est la première adversaire de ce nouvel entraîneur, Bruce Arena. Oui, 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 vous avez bien compris. Bruce Arena, ceci n'est pas 2016, mais bien 2019. Bruce Arena est le nouvel entraîneur de la Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Il est aussi le directeur technique présentement. Bruce Arena a les clés du château de la Révolution. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais le château de Foxborough, l'Impact recevra le Revolution à la maison ce samedi 13h. Est-ce que Bruce Arena répétera l'exploit de Johan Damétristan ou est-ce qu'on verra la révolution que l'on connaît?
Voilà, on parle de... Ben, la situation est similaire, oui. Je vais te le donner. Le FC Cincinnati, ça faisait... quand ils ont marqué le premier but, ça faisait 531 minutes qu'ils n'avaient pas marqué de but. On a une situation un peu similaire en Nouvelle-Angleterre où... marquer des buts, c'est très, très rare. Bruce Arena, c'est quand même tout un entraîneur. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui disaient est-ce que la Révolution fait une bonne chose d'aller chercher un entraîneur avec autant d'expérience, avec de l'expérience de la MLS 2.0, de la MLS 2.0, de la MLS 1.0, je pourrais même dire. Est-ce que ça va fonctionner en MLS 3.0? De toute façon, il rentre en ce moment, la fenêtre de transfert est fermée, il n'y a rien à faire, il y a son équipe jusqu'en juillet. Donc, ce qu'il peut faire, c'est juste mettre son empreinte sur l'équipe qu'il y a en ce moment. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, surtout avec un entraîneur avec autant d'expérience. Mais je continue à le répéter. Premièrement, Rémy Garde ne connaissait pas Bruce Arena, ce qui est un petit peu surprenant à mon avis pour quelqu'un qui étudie la MLS un petit peu. Mais bon, ça reste quelqu'un qui a son bagage et pas nécessairement en Amérique du Nord. Reste que le terrain sera peut-être pas plus glissant, mais aussi glissant qu'à Cincinnati. T'es chez toi, si tu perds ce match-là, t'as l'air beaucoup plus d'un crapet soleil. Je pense que c'est le mot du jour.
Le mot du jour,
crapet soleil.
Tristan veut aller à la pêche. Donc
ouais. c'est ça. Ouais. Mais le terrain est plus glissant chez toi. Si tu perds le match chez toi, t'as l'air encore plus stupide que si tu perds à l'étranger dans un match que c'est... la défaite de l'Impact, c'était pas nécessairement ça. L'histoire, si on regarde le plus gros portrait, c'est Johan Damet qui rentre et qui donne à son équipe sa première victoire depuis longtemps et sa première victoire en étant le plus jeune entraîneur de l'histoire de la MLS, tout ça. La défaite ici, si tu perds contre la Nouvelle-Angleterre, est beaucoup plus centrée sur toi.
Je trouve intéressant aussi, si on compare les deux équipes un peu, juste parce que les deux étaient en fond de classement dans l'Association de l'Est, et on peut créer un certain parallèle entre les deux avec les entraîneurs et qui prend le relais en tant qu'entraîneur de l'équipe. On parlait de FC Cincinnati avec Alan Koch qui a été un petit peu critiqué pour son comportement dans l'arrière-scène par rapport à ses limitations au niveau budgétaire, ses limitations au niveau recrutement de joueurs. Il n'a pas nécessairement été capable d'avoir les joueurs qu'il voulait. Il a dû se contenter de l'alignement qu'il a présentement. Et au lieu de retourner ça au positif, il a agi d'une certaine manière qui a accéléré la décision prise du FC Cincinnati. C'est ce qu'on a appris par rapport aux coulisses du FC Cincinnati. Et Yoann Demey prend le relais et change le même point de vue de perspective en disant « On a ce qu'on a et c'est à nous de faire le mieux possible avec ce qu'on a. » Et au lieu de vouloir s'entêter tactiquement avec un schéma qui n'avantage pas les qualités de son alignement, il a changé un petit peu, il a fait confiance aux joueurs à laquelle il a été peut-être un petit peu aliéné et s'est retrouvé avec un succès en partant. Si on regarde la révolution, on a Brad Friedel, qui était le nouvel entraîneur depuis l'année dernière, ancien gardien de Tottenham, ancien gardien du Revolution, évidemment, il a terminé sa carrière-là. Un nouvel entraîneur avec une expérience d'un gros euro, là, avant de commencer son règne avec entraîneur du New England Revolution. Et ça n'a pas bien été tactiquement, il a été out-coaché plusieurs fois, les joueurs étaient un petit peu dans le néant, il n'a jamais été capable de prendre avantage des qualités de son alignement. Il y a quelques bons joueurs, Juan Agudelo entre autres, il y en avait quelques-uns aussi l'année dernière, il y avait Kai Kamara, et qui est là cette année, et qui n'ont pas été capables d'avoir... Kai Kamara, Colorado, hein, je me trompe.
Kai Kamara qui est au Colorado en ce moment,
deux ans qu'il était avec... il était là à la fin, début du règne de Friedel, Kai Kamara. Ce que je trouve dommage... c'est qu'on a engagé un entraîneur qui n'a pas d'expérience. Et là, on se retourne carrément aussi de situation. On engage Bruce Arena en se disant, bon, ben, le problème, c'était justement l'entraîneur. Il n'y avait pas les qualités tactiques pour gérer nos hommes. Maintenant, mettons Bruce Arena et ça va régler le tout.
Je t'arrêterai là-dessus parce que non seulement on met Bruce Arena, mais on met le directeur général à la porte.
Mike Burns, qui a été congédié hier. Ouais.
Exactement. Donc, il y a vraiment un changement total. Et Bruce Arena qui... reste, tu peux lui donner n'importe quoi à Bruce Arena, il choisit ses shots. Là. Il aurait, si ça ne tentait pas d'aller en Nouvelle-Angleterre, il ne serait pas allé. Et là, il est, puis je vais donner du crédit à Julian Cardillo, mon collègue en Nouvelle-Angleterre à Pro Soccer USA. Bruce Arena est arrivé là parce qu'il a une confiance de Robert Kraft et des Kraft en général. Et il a une certaine... ils lui ont donné, entre parenthèses, une promesse qu'il allait avoir de l'investissement. Non seulement ça, mais les Kraft, ils donnent une carte blanche parce que non seulement il est l'entraîneur-chef, mais il est le directeur général. Il est un peu comme Rémi Garde, en fait. C'est lui qui tire... il a les deux mains sur le volant, là, Bruce Arena, en Nouvelle-Angleterre. Et... c'est une vraie révolution. Là. C'est vraiment ça. Là. On va avoir peut-être pas en juillet, mais d'ici à quand ça va faire un an exactement qu'il va être entraîneur, cette équipe-là sera plus la même. Cette équipe-là va être probablement très différente. Cette équipe-là va probablement être complètement à la main de Bruce Arena. Là, maintenant, la question est-ce que Bruce Arena peut faire ce qu'il a fait avec le Galaxy, avec l'air de la MLS qui est au TAM, est au GAM. C'est complètement différent. Là, c'est plus juste d'aller chercher les joueurs désignés.
C'est plus juste Beckham.
C'est plus juste d'aller chercher les joueurs domestiques, d'aller échanger certains joueurs pour les rangs d'allocation. C'est plus cette game-là. Ben, ça reste encore ça, dans un certain sens. Je veux dire, Bruce Arena a des connexions avec les Américains en Allemagne. Il s'y connaît quand même pas mal, mais... est-ce qu'il est capable de faire le même travail? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher le même succès avec cette nouvelle génération, cette nouvelle façon de travailler qui met à l'évidence des équipes comme Atlanta, comme LAFC? Est-ce que ça va être capable d'être fait? On le sait pas, mais ça doit faire peur. Si moi je suis un partisan de l'Impact, je suis un peu sur mes gardes sur ce que la Révolution va faire, parce que la Révolution, c'est vraiment une équipe, c'est une arrière-pensée quasiment.
C'est un géant qui dort depuis des années aussi. Je pense que Robert Kraft s'est fait mettre devant le fait accompli qu'il devrait être meilleur lorsqu'il a vu Arthur Blank à Atlanta utiliser les mêmes ressources potentielles que Robert Kraft a, mais avec de bien meilleurs résultats, et en utilisant son côté NFL pour bien commencer ou continuer la franchise qu'est l'Atlanta United. Juste la banque de courriels que tu peux avoir en débutant une équipe de la MLS, en ayant une équipe de la NFL, c'est comme, OK, bon, on a déjà 300 000 emails, on envoie un petit lien pour les billets de saison, on a vendu 40. Je pense que ça facilite le cas.
C'est pas Bruce Arena qui avait dit aussi qu'il avait plus à apprendre de Bill Belichick que de Pep Guardiola?
Ouais, mais...
Peut-être pas le meilleur quote, là, mais là, il va avoir Bill Belichick dans le même bureau, là, dans les mêmes bureaux, donc...
En parlant de Bruce Arena, je pense que... Je sais pas si tu as eu la chance de l'interviewer déjà ou de faire partie d'un scrum avec Bruce Arena.
Non, c'est bon, un des...
Bon, peut-être samedi, ça va t'arriver, tu vas voir... C'est une expérience. C'est vraiment une expérience.
Meilleur ou pire que Ziggy Schmidt? Ziggy Schmidt, ça, c'est vraiment... En termes de... Là, on parle journaliste. Ziggy Schmidt, j'ai vraiment été content de...
Ouais, tu seras pas content.
Dans les coulisses, j'avais posé une question. Comment on fait pour entraîner un Zlatan Ibrahimovic? Puis il m'a juste regardé du coin de l'œil, puis il a fait... Comme on entraîne n'importe quel joueur. Puis il s'est retourné. J'ai fait « Oh mon Dieu!
» Mais non, Bruce Arena, c'est une expérience, un être humain qui n'a pas l'air d'être le plus chaleureux pour être bien poli. Mais Bruce Arena, 67 ans, avec une nouvelle génération de joueurs de soccer en MLS, les jeunes joueurs, les jeunes de l'académie qui ne sont pas nécessairement au courant de tous les succès que Bruce Arena peut avoir eu en MLS, que pour eux, Bruce Arena, ce n'est qu'un nom et non nécessairement une théorie ou une intimidation. Je pense que ça va être intéressant de voir à quel point un Bruce Arena de 67 ans peut gérer des joueurs d'une autre génération, mais surtout de voir à quel point cette décision va se transposer dans le temps. Combien de temps Bruce Arena est-il là à la Nouvelle-Angleterre, à Boston? 67 ans, on parle ici d'un entraîneur et... jusqu'à quel point il va être là pour récolter les fruits de son travail aussi dans le futur. Je pense que c'est dommage de parler de l'âge d'un entraîneur, mais lorsqu'on regarde à 67 ans, autant côté santé, Bruce Arena a eu des problèmes de santé il y a quelques années aussi. Est-ce que tout le voyagement, tout ce qui rentre en ligne de compte avec ce qui vient avec un entraîneur, un emploi d'entraîneur de la MLS, est-ce que c'est un choix qui est intelligent si on se transpose dans le futur? Je pense que c'est quand même... légitime de se poser la question.
À cette question-là, je répondrais que d'être dans l'association de l'Est, c'est un peu mieux que d'être dans l'association de l'Ouest. T'as moins de voyagements à voyager de LAX que de voyager de bon, je sais pas c'est quoi l'aéroport à Boston, mais reste que les voyages en général interconférence sont moins longs. Reste que bon, mais c'est quand même un old boys club en Nouvelle-Angleterre, ouais. Avec Bill Belichick, avec maintenant Bruce Arena, ça fait des années, là. Mais bon, tu voulais quelque chose pour rebâtir une équipe, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui vraiment donne un contraste complètement différent à un Brad Friedel qui est... Bon, Brad Friedel qui... Est-ce que Brad Friedel va entraîner un moment donné dans le futur? Moi, c'est drôle parce que quand Brad Friedel s'est fait congédier, mon premier, même avant de penser à Bruce Arena, parce qu'à mon avis, Bruce Arena ne revenait pas.
Moi non plus.
Moi, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que Steve Cirundolo fait en ce moment? Parce que Steve Cirundolo, qui était à Hanover en Allemagne, lui a été entraîneur adjoint pendant des années. Et est venu en renfort aider l'équipe nationale américaine. Et je me suis dit, bon, c'est un peu dans le style de Mauro Biello qu'il a passé son temps, il a passé du temps à apprendre d'un entraîneur-chef. Là, peut-être que c'est l'étape plus loin. Brad Friedel n'a pas eu ça. Il n'a pas eu l'expérience d'être soit entraîneur de gardien de but, entraîneur adjoint d'un certain dans une équipe. Ça, il aurait probablement profité de quelque chose comme ça. Parce que de le jeter dans la fosse aux lions comme ça, bon, on s'entend que la fosse aux lions en Nouvelle-Angleterre, c'est plus une fosse à chatons, là, mais tu sais, c'est...
Ça rugit pas bien, mais il pourrait perdre 10 matchs de suite, puis la grogne populaire serait 15 personnes.
Oui, exactement. Non, mais ouais, bon, je veux dire, bon, on envoie nos respects à tous les fans du Révolution qui à chaque match vont dans un stade vide. Mais
j'aime bien le Bent Musket, qui est un blog sur SB Nation qui parle du Revolution avec Jake Catanese. Et oui, je leur souhaite la patience.
Effectivement. mais meilleure des chances à Bruce Arena, honnêtement. Mais c'est ça. Moi, si je suis un fan de l'Impact en ce moment, je suis sur mes gardes, surtout pour le match de samedi. Ça risque d'être quelque chose d'intéressant. Toujours Zaibo, toujours on parlait de joueurs un peu plus tôt, toujours un à regarder du côté du Révolution.
Ouais, non, exactement. Et Agudelo aussi, pour moi, est un joueur qui n'atteint jamais son plein potentiel, mais est toujours dangereux. Peut toujours être... sortir une volée et un but spectaculaire de n'importe où. Vous voyez à l'écran présentement, si vous nous écoutez en vidéo, les matchs qui s'en viennent pour l'Impact de Montréal. On parlait du match de ce samedi à 13h en après-midi au Stade Saputo contre le Revolution et Bruce Arena. Ensuite, voyage l'autre côté du continent nord-américain contre Mark Anthony Kay et le LAFC. Un vendredi soir, enfin, je vais pouvoir écouter l'Impact, Tristan, un vendredi soir tard. J'aime bien le soccer du vendredi
Est-ce
soir.
Est-ce qu'il y a encore le Viernes de football sur Univision?
Encore non? Mieux que ça, sur TSN, il y a le Friday Night Football.
Friday Night Football.
Et cette fois-ci, c'est Friday Night Soccer et le soccer du vendredi soir. Pour aller écouter à TVA Sport pour une fois. Mais je pense que Montréal à LAFC sera un bon match. Et d'après moi... sûrement, contre LAFC, on va avoir au moins Nacho Piatti. Ce samedi, peut-être, mais contre LAFC, sur une surface naturelle, en Californie, où ce que la météo ne sera pas...
un facteur.
Un facteur, exactement. Je pense qu'on va voir Nacho, moi, sûrement à LA.
Moi, j'ai mis mes réserves. Je m'avancerai pas avant d'avoir...
de le voir jouer.
avant d'entendre de la bouche de Rémi Garde qui va faire le voyage ou qui est très confiant. Mais le match de LAFC va probablement être le plus dur de la première moitié de la saison. À mon avis, c'est...
un test, hein? Parlant d'un test, ça va être tout un test.
On voulait voir à quel point Zakaria Diallo est un candidat au défenseur de l'année. Attends de le voir défendre Carlos Vela.
Ah, et Diego Rossi.
Exactement.
Pas oublier Mark Anthony Kay, canadien.
Donc, Bakary Sagna, Zakaria Diallo
Raitala.
Yuka Raitala vont être vrais.
Si, Lovitz.
Si, et Daniel Lovitz, qui vont être mis à l'épreuve, va être un petit mot. Là. Et moi, j'aime toujours les matchs en milieu de semaine tard. C'est toujours les meilleurs matchs sur Twitter. Moi, je dis ça comme ça.
Oui, non, c'est sûr. Moi aussi, j'aime bien ça. Et regardons un petit peu le classement de l'Impact avant de terminer cette portion de l'émission. L'Impact de Montréal, qui est présentement troisième dans l'Association de l'Est avec 20 points, une moyenne de points par match de 1,54. Qui est malheureusement quand même sixième dans l'Association de l'Est, mais malheureusement l'Impact a plus de parties jouées, donc a plus de points, ce qui fonce un peu la donnée, même si l'Impact est troisième, seulement 3 points de la tête, si tous les matchs étaient égaux et la même tendance se maintient, l'Impact serait sixième au classement présentement, et non troisième, un fait à se rappeler, mais l'Impact, quand même une belle performance après seulement 3 matchs à la maison. On parle de 13 matchs joués, 6 victoires, 5 défaites, 2 matchs nuls pour l'Impact de Montréal. Je pense que Philadelphie, au sommet de l'Association de l'Est, c'est quand même une surprise, je dirais, Tristan, pour ce début de saison 2019.
Mais Philadelphie, à chaque fois qu'ils ont un résultat, c'est un peu une surprise. T'as vraiment jamais l'impression, t'as vraiment jamais l'impression que Philadelphie va être de la partie, mais moi, j'ai vraiment aimé l'acquisition de Marco Fabian. Il y a certains... Corey Burke, qui malheureusement a des problèmes en ce moment, qui... Je veux dire, ils ont...
Problème de visa, si vous savez pas. Problème de visa.
Exactement,
qui, oui. 3 à 4 mois avant que le tout soit réglé. On parle d'une omission de sa part ici, et non nécessairement de l'équipe, mais c'est pas une très belle optique pour l'Union Philadelphie et Corey Burke.
Non, c'est très dommage, honnêtement. Je veux dire, ben, moi, je connais pas, je suis pas aussi, j'ai pas énormément d'informations sur le sujet, mais moi, j'ai trouvé ça tellement dommage pour quelqu'un qui était vraiment sur sa lancée en Corey Burke l'année dernière, qui avait eu une très bonne saison, mais reste que l'Union garde sa tête au-dessus de l'eau. Pas juste au-dessus de l'eau, ils ont quasiment le corps au complet au-dessus de l'eau, là, c'est avec un résultat comme ça. Mais pour en revenir à l'Impact, moi, ce qui m'impressionne encore, et c'est pas la première fois qu'on en parle, moi, c'est la colonne de l'affiche à l'extérieur. 4 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls. On frappe pour 500 à l'étranger. C'est pas... on n'a jamais vu ça au niveau match à l'étranger depuis la NASL.
Bon, l'Impact, on n'a jamais vu ça en MLS, t'as absolument raison. Je pense que NASL ou la USL ou l'Impact avait clairement, avant chaque match qui débutait, l'Impact avait un avantage. Parce que côté financier, l'Impact était un gros poisson dans un petit étang. Là, on est un moyen poisson d'une grosse étang et on voit la différence. Mais non, c'est vrai, on a rarement vu une performance à l'extérieur aussi impressionnante de l'Impact de Montréal.
Je ne vais pas m'avancer, mais la dernière fois que l'Impact avait une aussi belle fiche à l'étranger, le joueur désigné argentin s'appelait Leonardo Di Lorenzo. Là. On peut reculer jusque-là. Là,
c'est 2009, ça? 2004?
Ouais, 2009,
c'est
2009.
Dans ce coin-là. La fin.
Ouais. Mais blague à part, honnêtement, comme on peut voir un peu juste dans l'association de l'Est et Rémi Gard en parlait un petit peu, il y a quand même, on voit les équipes de MLS devenir de mieux en mieux à l'extérieur. On voit New York City pour des raisons assez évidentes, mais on voit aussi une équipe comme DC United et l'Union de Philadelphie qui est à 2-2-2 à l'étranger. Donc les matchs à la maison deviennent très importants. Très importants à aller chercher. Et je veux revenir un peu sur le match de la Nouvelle-Angleterre. Non seulement le match est vraiment important à aller chercher, on s'en va à LAFC la fois d'après, le match d'après. Donc, c'est important d'aller chercher ces points-là. Et
pas oublier, après LAFC, 5 jours plus tard, même pas, contre Real Salt Lake à la maison. Donc, on parle de voyagement et de retour à la maison en une semaine et de beaucoup de matchs en pas beaucoup de temps encore.
Exactement. Et donc... je veux dire, l'Impact a quand même les chiffres de son côté dans un certain sens parce que l'Impact n'a pas perdu de match encore quand ils avaient perdu le match d'avant. Donc, l'Impact n'a pas de ce qu'on appelle un losing streak cette saison.
Il n'y a pas de séquence de défaite. Mais si on regarde, c'est intriguant ce que tu dis, Tristan, aussi, parce que si on regarde un petit peu plus loin dans le classement, ce qui s'en vient pour l'Impact, tu as mentionné LAFC. Ensuite, c'est une séquence à la maison, mais une séquence, encore une fois, de 3 matchs en 16 jours ici. On parle du 29 mai contre le Real Salt Lake à la maison, le 1er juin contre le Orlando City à la maison, encore une fois, 3 jours plus tard, et ensuite le 5 juin, à la maison contre les Sounders de Seattle. Des matchs pas faciles avec des équipes qui sont quand même en mi-classement, je dirais, pour Real Salt Lake et Orlando. Mais Seattle, une équipe très performante, deux des meilleures équipes de l'Association de l'Ouest, LAFC, Seattle. Ouais, c'est les 5 prochains matchs de l'Impact qui sont cruciaux, selon moi, encore une fois, relativement très, très déterminants pour le reste de la saison et le classement.
Absolument. Je mettrais un astérisque sur le match d'Orlando qui peut-être serait suspect à être déplacé un peu plus tard à cause de la finale de la Ligue des Champions qui, si on me donne mon avis, si tu veux avoir du monde dans tes bancs, t'es mieux de déplacer ça à peut-être un 7h, 7h30. Mais reste que...
Ou un beau party de visionnement avant le match sur les écrans géants. Et ensuite,
exactement. Mais on a un Real Salt Lake qui, je veux dire, faut jamais prendre les matchs contre les équipes de l'Association de l'Ouest à la légère, même si les pertes font un moins gros effet dans ta division. Orlando, qui probablement vont se souvenir du match de la dernière fois avec Dwame Dwyer, Nani, Juan notamment. Et après... On a parlé de l'AFC, une équipe qui, moi, personnellement, me fait très, très peur. Une autre équipe qui me fait très, très peur, c'est les Sounders de Seattle. Les Sounders de Seattle, s'il y a une équipe contre qui je ne parierai jamais contre, c'est les Sounders de Seattle.
Ouais, surtout avec des joueurs comme Rodan et des joueurs comme Nicklas Lodero. Ouais, des bons joueurs à avoir dans son fantasy. Je pense que Lodero là, puis Carlos Vela, vous pouvez les mettre à l'encre ou vous pouvez les locker, les barrer dans votre fantasy.
Ouais.
Et c'est des joueurs que vous pouvez toujours compter sur chaque semaine. Bon, changeons un petit peu de département. On a parlé de la MLS, de l'Impact, ce qui s'en vient. Regardons un petit peu la Première Ligue canadienne. Je pense que vous êtes au courant depuis la semaine passée. On avait parlé de l'émission la semaine passée, le fait français et ce qui manquait. J'ai fait une sortie publique jeudi pour parler du manque de contenu francophone de la Première Ligue canadienne et de One Soccer. Nous allons voir ce qui en ressortira durant les prochaines semaines, mais regardons ce qui se passe sur le terrain. On a eu des belles performances, encore une fois, de Cavalry FC qui est allé à Hamilton et à Nick Ledgerwood, le joueur de la semaine de la Première Ligue canadienne, qui est très content. On va en parler plus demain à l'émission anglophone Tous en tout soccer podcast. Et je te surprends avec ça. Nick Ledgerwood qui a communiqué avec Dwayne Rollins aujourd'hui, une petite conversation. Et Nick Ledgerwood adore son temps en Première Ligue canadienne. Surpris du niveau, agréablement surpris. Adore l'attitude positive qu'il y a derrière la Ligue. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir un joueur, un vétéran canadien comme lui, qui a joué avec le FC Edmonton dans le temps avec la NASL, représenté le Canada à plusieurs reprises, et le joueur de la semaine dans la Première Ligue canadienne qui a compté le but gagnant contre le Forge FC. Un match un petit peu moins intéressant, le premier 0-0 de l'histoire de la Première Ligue canadienne entre FC Edmonton et Pacific FC, mais je trouve ça intéressant de voir pour la deuxième semaine des estrades avec 4000, 5000, 6000 personnes pour des matchs en mi-semaine. C'est bien débuté, selon moi, pour la Première Ligue canadienne, Tristan.
Oui, pour revenir sur Nick Ledgerwood, ça faisait énormément de sens. C'est pour c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voté pour Nick Ledgerwood. C'était mon premier choix pour le joueur de la semaine. On peut voir dans une certaine mesure la difficulté d'aller chercher des victoires à l'étranger. Et Cavalry, qui dans une semaine, avec deux matchs, va chercher la victoire à l'étranger, va chercher la victoire chez eux. Nick Ledgerwood qui a joué les deux matchs, qui a joué les 90 minutes dans les deux matchs, qui a été très très solide. Moi j'ai sans hésitation mis mon vote pour Ledgerwood. Je suis bien content d'apprendre ce que tu viens de dire sur son impression du niveau. Cavalry qui prouve lentement mais sûrement qu'ils vont être une force dans la Première Ligue cette année, du moins dans la saison printanière.
Et aussi sûrement cet automne, parce que avec les résultats, trois matchs comme ça, trois victoires, Cavalry est premier dans la Ligue. Ils prennent une sérieuse option déjà sur la saison printanière avec seulement 10 matchs. C'est un sprint et Cavalry est déjà en avance. Donc une course de chevaux, c'est quoi? C'est un quart de mille? Ben ils ont déjà tourné le premier coin. Avec un avance pour Cavalry.
Ah, tout à fait. Honnêtement, mais moi, je continue à dire le niveau, je trouve très, très bien. J'ai vraiment aimé des matchs que moi, personnellement, j'ai écoutés. C'est sûr qu'avec le travail qu'on fait, on ne veut pas tous les écouter en direct dans un pain, mais honnêtement, je veux dire, même du match de FC Edmonton qui... Bon, m'a manqué un peu de steam, je dirais. Malheureusement, un carton rouge en première mi-temps sur Philippe Lecourt-Joseph qui apportait beaucoup, selon moi. Donc, le FC Edmonton qui ont manqué un peu de son apport offensif. Mais ouais, je suis bien curieux de voir, du moins du côté Edmonton, voir ce qu'ils peuvent apporter eux autres aussi. Je trouve qu'en Alberta, les deux équipes sont assez intéressantes.
Non, je suis absolument d'accord. Et c'est le fun de voir aussi le Clark Stadium qui est le stade de FC Edmonton. Durant leur temps en NASL, 1000 personnes maximum pouvaient assister au match. C'était un petit stade, conditions très difficiles pour tout le monde. Et c'est le fun de voir ce stade avec 4000 personnes pour un match contre Pacific FC et avoir beaucoup plus d'ambiance et beaucoup plus d'atmosphère soccer que dans le temps de la NASL. Et je pense que c'est bien parti pour le propriétaire Tom Pfaff et pour le FC Edmonton. Mais je pense que c'est le cas pour la majorité des équipes en Première Ligue canadienne. C'est sûr que l'équipe que nous allons voir ce soir contre Blainville, York 9, York 9 font passer au Minnesota United dans MLS quelques saisons dans pas leur stade et éventuellement débuteront leur propre stade. Et nous allons voir le plein potentiel d'un York 9 lorsqu'ils auront leur propre stade. Présentement, York 9 pourrait être seulement appelé York car ils ont une grande majorité de leurs joueurs.
Ils pourraient quasiment s'appeler les Lions. Hein.
Les Lions de York, ben oui, parce que l'équipe universitaire de York University, dans le U Sports au Canada, un bon programme de soccer avec Carm, leur ancien entraîneur qui est maintenant adjoint avec York 9. On a 16 joueurs, si je me trompe bien, qui viennent de York et ils jouent à l'Université York. Donc, York pour les deux prochaines années, York 9 ensuite. Ce soir, au centre équestre à Blainville contre l'AS Blainville, je suis quand même intéressé de voir ce duel Tristan en championnat canadien. Nous savons un peu, quand même, un peu plus d'informations sur l'AS Blainville. Nous les avons vus l'année passée. Bien se tirer d'affaires contre le Ottawa Fury. C'est sûr, aux deux matchs, un mauvais résultat à la fin, mais on a vu la PLSQ bien faire contre les Oakville Blue Devils au cours des deux dernières années. Et je pense que ce soir, voir l'AS Blainville performer contre York 9 serait une bonne nouvelle. Et je pense qu'on peut même, si ça se passe bien pour Blainville, pas juste dans les estrades, mais sur le terrain, et que Blainville démontre une capacité de compétitionner, peut-être que certaines ambitions qui pourraient grandir sur la Rive-Nord et peut-être que d'ici 5-6 ans, nous aurons plus qu'une équipe en Première Ligue canadienne dans la région montréalaise. Mais ce soir, Blainville, York 9 au centre équestre, Tristan?
Premièrement, il y a trois choses qui me viennent à la tête en ce moment. La première, ça serait cruel de ne pas mentionner que Diédine Abzi fait son retour à Blainville, lui qui joue pour York 9, le joueur de flanc, un jeune espoir québécois, le premier joueur québécois à jouer des minutes de Première Ligue canadienne, qui a joué le premier match, qui avait montré, peut-être une dizaine de minutes, avait montré des bons flashs sur son flanc, qui était une des stars du côté de Blainville dans le championnat canadien de l'an dernier. Premièrement, le résultat de l'AS Blainville l'année dernière, je te dirais peut-être pas nécessairement que le monde les a pris de court, mais eux ont vraiment pris le tournoi du championnat canadien sérieusement. Ils ont fait une forte performance contre les Blue Devils de Oakville. Et après, ils se sont tournés contre Ottawa. Et là, on parle pas de l'Ottawa de cette année. Là, on parle de l'Ottawa avec Maxime, ouais, avec Maxime Crépeau dans les filets.
Thomas Meyer-Giguère
qui avait joué
deux matchs, je crois même.
Qui avait joué deux matchs, mais qui avait fait une saison. On pensait qu'il pouvait même compétitionner pour les rangs à l'Impact de Montréal. Oui. C'était une équipe qui était très, très forte et avait admis aucun but sur sa pelouse qui jouait à Laval l'année dernière. Et on est allé à Ottawa et à Ottawa, c'était un match qui était très, très proche. On a failli voir Blainville jouer contre Toronto. Et le match qui, moi j'entendais que si le match se jouait contre Toronto, qu'on jouerait à Claude Robillard. Donc là, tu sais, il y avait des allures de l'Impact en Ligue des Champions, là, quasiment, là, avec l'AS Blainville.
Oui, oui, à différents niveaux, à différentes échelles, mais je suis d'accord avec toi. Et ce qui me donne un peu confiance ce soir pour l'AS Blainville, c'est une équipe qui est aguerrie, qui se connaît, sont habitués de jouer ensemble, sont quand même une équipe qui est stable depuis plusieurs années. Depuis trois saisons, je vous dirais qu'ils sont quand même assez stables avec l'entraîneur, avec Rudolf Meyer. Et cette année, André Lefebvre se joint en tant que défenseur et aussi amène son expérience côté entraîneur et un assistant entraîneur avec les Carabins de Montréal en U Sports. Donc André Lefebvre apporte beaucoup à l'AS Blainville. Mais si on remarque l'année passée, okay, ce qu'on connaît de la Première Ligue canadienne, Tristan, c'est encore peu. On a vu des équipes jouer deux matchs, un match, trois matchs. Mais il y a des joueurs de Première Ligue canadienne qui jouaient avant pour le Oakville Blue Devils. Et un de ces joueurs-là est un des très bons joueurs qui a marqué récemment pour le Forge FC. On parle d'Anthony Novak, qui était le meilleur marqueur de la Ligue 1 en Ontario pour Oakville en 2018 et en 2017. Ce joueur a joué contre l'AS Blainville et l'AS Blainville a été capable de le tenir au néant. Il a déjà marqué en Première Ligue canadienne. Donc si je me replace l'année dernière, Je me rappelle même les commentaires que Novak m'avait dit après le match. Blainville organisé, difficile à briser, et une équipe qui présente une bonne conscience tactique. Et ça, ça pourrait être intéressant ce soir contre York 9. Hamilton est un petit peu égal côté niveau avec York 9. Et si on utilise ce qu'on appelle les maths troisième partie, si je te bats, puis toi tu bats mon ami, qui va se battre entre nous deux? Mais je pense que c'est intéressant ce soir. L'AS Blainville pourrait vendre sa peau chèrement.
Je vais mettre un petit bémol sur l'AS Blainville. L'AS Blainville qui jouait en PLSQ cette fin de semaine, qui s'est fait shipper 2 points chez Fabrose. En fait, c'était sur leur pelouse,
ouais,
à Blainville.
Ouais.
Donc, il y a quand même un petit hiccup ici, tandis que York n'a pas joué en fin de semaine. Mais je dois avouer, on perd Abzi, on perd Nazim Belgendouz, qui était un très très bon joueur pour l'AS Blainville l'année dernière, qui était au CS Mont-Royal Outremont cette année, les Griffons. Mais on ajoute Vandré Lefebvre, on ajoute le champion national, le carabin Omar Crème, on ajoute le deuxième meilleur marqueur de la PLSQ de l'an dernier, Stéphane Karajovanovic, qui jouait avec l'Université de Carleton, qui jouait avec l'FC Gatineau. On a Pierre-Rudolph ou Papouche Maillard. Cette équipe-là, faut faire attention. Si York commence à jouer un peu mollement, ils vont se faire mordre. Ils vont se faire mordre.
Ouais. Puis si vous écoutez en direct et vous vous déplacez un petit peu plus tard ce soir au centre équestre, York aime jouer la possession. York vont garder le ballon, vont bouger le bloc et vont essayer de trouver le moyen de briser la défensive au dernier tiers, au tiers offensif. Ils vont garder le ballon. On va voir un Telfer passer le ballon à un Carnival Porter. Nous allons voir ça. Et nous allons voir aussi un des très bons joueurs cette année, le Japonais, qui joue pour York 9. Sera, selon moi, ça va être tout un match ce soir. Et j'ai bien hâte d'en parler durant l'émission de la semaine prochaine.
Moro Fushi, le Japonais.
Exactement,
oui.
Moro Fushi, qui est un des bons joueurs en Première Ligue canadienne et une des belles histoires qui existe. Bon, avant de se souhaiter une belle journée, il y a 2 autres matchs ce soir aussi, Tristan, en championnat canadien. Nous avons ce soir, en même temps que le Blainville contre York 9, Vaughan Azzurri, qui sont les champions défendants de la Ligue 1 en Ontario, contre les HFX Wanderers de Halifax au Centre national de soccer de l'Ontario, dans la région de Vaughan, donc au Ontario Soccer Center. Nous allons voir Vaughan contre HFX Wanderers. Et le troisième match, plus tard ce soir, à 10h30, heure de l'Est, 22h30.
Si je suis assis confortablement dans mon sofa à écouter One Soccer, je mettrai le match Vaughan-HFX.
Ouais.
Parce que Halifax, ils sont pas retournés chez eux, hein. C'est un long road trip pour Halifax.
C'est loin, Halifax.
Si on est fan du soccer québécois, peut-être qu'on va voir un premier départ pour Vincent Lamy, le poacher des U18 de l'Impact de Montréal. C'est impressionnant le nombre de buts. Si vous allez voir son profil sur la page Academy, sur le Transfer Market, la bible du soccer. Peut-être que c'est un match à prendre pour Vaughan et Pacific contre Cavalry, si je me trompe pas. Il y a des implications Ligue Europa. Il y a des implications CONCACAF League, me semble.
Oui, éventuellement, c'est que durant les... je pense que c'est durant la saison régulière, les trois premières équipes qui ont été annoncées en tant qu'équipe de la Première Ligue canadienne. Donc, on parle de Cavalry, Forge et Pacific, si je me trompe pas, mais sous toute réserve, Dwayne en parlait à l'émission aujourd'hui.
Ouais, on va garder nos réserves là-dessus.
On va garder nos réserves, oui. Mais c'est la meilleure de ces trois équipes-là représentera la Première Ligue canadienne durant la phase de qualification de la CONCACAF, la Ligue des champions, qui a lieu à l'automne. Et exemple, ceux qui gagnent la Coupe des voyageurs, le Voyager's Cup, le championnat canadien, obtiennent une place pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CONCACAF qui débute au printemps. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, exemple, si Cavalry gagnait le championnat canadien cet automne, il représentait le Canada aux côtés phase de groupe, phase finale qui a lieu au printemps. Et le représentant de la Première Ligue canadienne, lui, sera en qualification à l'automne contre les équipes un petit peu moins grandes, je dirais, de la CONCACAF, comme les équipes du Panama, les équipes du Guatemala, et choses comme ça. Et les équipes mexicaines et américaines et la MLS arrivent au printemps.
La grosse histoire du match, par contre, pour Cavalry et Pacific, c'est est-ce que Cavalry est dû pour perdre? ou est-ce que Cavalry s'impose et devient la force canadienne?
Peut-être, oui.
Est-ce qu'on va voir la machine de Pacific finalement s'animer puis donner la monnaie de sa pièce à Cavalry? On va voir.
Bon, deux petits sujets en terminant l'émission rapidement, Tristan, parce qu'on doit quitter pour Blainville bientôt. Donc, en parlant de Blainville, Laval, c'est en chemin pour Blainville. Et Québec, c'est pas en chemin du tout, mais ces deux noms ressortent aujourd'hui. Mon collègue co-animateur Dwayne Rollins de l'émission Soccer Today et de l'émission The Two Solitude Soccer Podcast que nous faisons ensemble a mentionné aujourd'hui que c'est presque assuré que Québec et Laval, la ville de Québec et Laval seraient représentés en Première Ligue canadienne. Québec presque sûr en 2020, Laval possiblement en 2020, pire des scénarios 2021, mais ces deux villes seront, Tristan, en Première Ligue canadienne avant longtemps.
C'est magnifique. Moi, c'est la nouvelle que tu veux avoir. C'est la nouvelle qu'on attend. Je sais qu'il y a énormément de détracteurs qui disent que ça ne fonctionnera pas, mais il y a un jeu à jouer. Surtout à Québec. À Québec, on le voit, si vous êtes fan de soccer universitaire, le marché québécois, le marché de l'Université Laval, c'est un powerhouse. Et là, je parle soccer masculin, soccer féminin.
Féminin aussi, qui est un des meilleurs programmes du Canada au complet. Et on doit mentionner malheureusement qu'on a perdu durant les derniers mois Elder Duarte, qui était le maître et le directeur technique du programme féminin avec le Rouge et Or Université Laval, qui est un des meilleurs entraîneurs au Québec.
Peut-être que l'équipe potentielle de Québec aurait un style HD, un peu comme le FC Dallas avec Lamar Hunt. Peut-être une petite idée ici. Mais, ouais. Mais je veux dire, au niveau... est-ce qu'il y a un jeu à jouer pour le Dynamo de Québec? Je dois souligner, je me souviens plus qui a écrit l'article exactement, mais il y a eu un article dans Le Soleil récemment sur le Dynamo de Québec et le contrat qu'ils ont en ce moment avec la PLSQ qui peut-être les ferait payer des frais pour s'en aller de la PLSQ un an plus tôt que prévu. Est-ce que le Dynamo deviendrait peut-être une espèce de club formateur? On y a pensé souvent avec l'Impact de Montréal. Est-ce que finalement la PLSQ aurait gagné son pari du côté de Québec, du côté de la capitale nationale? Moi, surtout avec quelqu'un comme Tanguay, ouais, peut-être mettre les couleurs rouge et or. Il y a un jeu à jouer. Il y a vraiment un jeu à jouer ici. Il y a déjà un stade.
C'est sûr qu'il y aurait des corrections à faire côté terrain, parce que présentement, c'est un stade qui est principalement utilisé pour le football canadien, universitaire principalement, d'une université Roger Or à Laval. Et oui, il y a des lignes de football dessus, des lignes de soccer aussi, je veux dire, mais pour la Première Ligue canadienne, ça se verra d'être au moins laver les lignes blanches ou trouver un moyen de changer un petit peu le scénario, mais il y a un stade potentiel et il y a les infrastructures déjà financières en place.
On s'entend que le PEPS, au niveau canadien, c'est un stade assez mythique. Il y a beaucoup de Coupes Vanier qui ont été gagnées là, beaucoup de championnats nationaux de soccer qui ont été gagnés là. Il y a quand même une bonne histoire au niveau sportif québécois. Donc, moi, je le vois d'un très bon œil. Et du côté de Laval, c'est plus l'infrastructure, à mon avis, désolé. C'est plus l'infrastructure au niveau où est-ce que cette équipe-là va jouer. Si on parle de Laval,
Bois-de-Boulogne, est-ce que Blainville a joué?
Moi, ce que je peux voir en termes de juste imaginer ça dans ma tête, c'est ce qu'on voit avec à Halifax ou ce qu'on peut voir à Phoenix aux États-Unis, où c'est un stade modulaire où on peut facilement rajouter
5 à 6 000 estrades autour du terrain.
Ça ne sera pas l'affaire la plus jolie au monde, mais encore là, il y a un jeu à jouer. Moi, je l'ai toujours visionné dans ma tête, si, parce que ça fait longtemps, toi aussi, ça fait longtemps qu'on y pense à cette Première Ligue canadienne-là. Et d'une équipe à Montréal, moi, je le vois comme Manchester City. Je veux le noisy neighbor. Moi, là, c'est si je fais une équipe à Montréal, amène-moi un ancien de l'Impact, puis fais-moi le Stade McGill. Fais-moi le panneau à la Carlos Tevez quand il a signé pour Manchester City, le Welcome to Manchester. T'es bienvenue à Montréal. Mets ça juste en face du stade de l'Impact. Va les chercher, là. Ouais, pis... Frappe où ça fait mal.
Pour rentrer dans la culture montréalaise, j'y mettrais dans l'ouest de l'île, principalement anglophone. Imagine le derby francophone anglophone. Saint Viateur contre Fairmount Bagel. Non, mais tiens, le derby, là.
Ouais, mais joue-la. Mais joue-la. Joue-la très Montréal ou joue-la Grand Montréal, mais à Laval. Fais un peu. quelque chose dans ce genre-là. Va chercher. Va la chercher complètement différente de l'Impact de Montréal. Fais quelque chose de. Si tu fais quelque chose de trop similaire, ça marchera pas. Non. Moi, je dis, va, joue là, mets-toi rouge ou mets-toi, je sais pas, mauve ou quelque chose de complètement différent.
Joue à Loyola, pas loin de sur Sherbrooke, pas loin de Montréal-Ouest. Tu joues à Loyola, tu t'habilles en Bourgogne puis tu t'appelles les Maroons, là. Crée-moi que ça attire du monde. Dans ce coin-là, ça attire beaucoup.
Ben, pour avoir couvert les Stingers pendant 4 ans de ma vie, je te dirais que... Mais ça prend un stade qui a du bon sens. Ça prend un effet marketing qui vraiment va chercher l'impact, qui prend l'impact de court. C'est exactement ça que tu veux.
Qui va chercher le vide que l'impact peut laisser côté marketing.
Exactement, c'est ça. Si l'impact d'ici les 3 prochaines années devient super corporate, va chercher complètement le. Il faut se la jouer complètement différent. Parce qu'à Québec, tu peux te permettre.
Le côté NASL, genre.
Oui, à Québec, tu peux te permettre d'aller chercher ton marché au complet. Quand tu es à Montréal, va chercher quelque chose de différent et crée-toi un derby. Va te chercher quelque chose puis espère que dans le championnat canadien, tu te prends l'impact en cours de route. Et là, c'est ça. Peut-être qu'un des groupes de supporters diminue d'ampleur pour aller chaler de l'autre côté de la track. Moi, c'est ça. C'est ça que je vois pour que quelque chose comme ça puisse... Pas naître, mais...
Et populaire, et connaître du succès.
Qui soit populaire, qui connaît du succès, et ça prend une bonne couverture médiatique aussi.
Oui, ça, ça va de soi au Québec, je crois. Sans médias, mais il y a point de salut, malheureusement, au Québec, et je pense que c'est dans tout. On a vu, si on regarde juste le hockey féminin à Montréal, là, on avait les infrastructures nécessaires pour tout avoir, et malheureusement... On va voir ce qui va arriver pour la saison prochaine. Peut-être qu'ils seront dans la NWHL, les Canadiens de Montréal. Mais je pense que on sait ce qu'on veut pas, ce qui va arriver, mais on veut avoir. Je pense qu'on a notre potentiel sportif. Faut y croire en partant. Et nous allons y croire.
Ben, parlant d'y croire, moi, sincèrement, si c'est pas dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, d'avoir l'équivalent de la Première Ligue canadienne au niveau féminin.
Ah, ben ça, c'est déjà en partant. C'est un point qu'ils ont déjà adressé lors de l'annonce de la saison. Ils se donnent quelques saisons, mais oui, ici, d'ici 2-3 ans, on n'a pas vu les investissements côté féminin. Autant qu'on en a parlé pour la PLSQ, durant plusieurs années, nous avons reproché leur manque d'investissement côté féminin, qu'ils ont corrigé et qui a déjà porté fruit. Il y a déjà des joueuses de l'équipe, des joueurs de l'équipe nationale féminine qui sont issus de la Première Ligue de soccer québécoise. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais pour terminer l'émission, Tristan, aujourd'hui, Don Garber était en ville cette semaine et point de presse avec Kevin Gilmore, le président de l'Impact, et Joey Saputo, propriétaire de l'Impact, qui doit être soulagé après le maintien en Serie A de Bologne la fin de semaine dernière. Mais l'Impact qui recevait Don Garber, quelques points, Tristan, que tu trouves intéressant. Éventuellement, il devrait avoir des investissements au Stade Saputo, car le calendrier amènera plus de matchs plus tôt à Montréal. Il y a le fait des voyages des équipes avec des vols nolisés ou non, qui devra changer pour la nouvelle convention collective qui sera débutée négociation après cette saison. Et aussi, le fait des fameuses cartes vertes. Et selon Don Garber, il n'y a pas d'avantage très grande pour les équipes américaines contre les équipes canadiennes pour cette clause de contrat qui vous fait devenir un joueur locaux au lieu d'internationaux très rapidement pour les Américains.
Oh mon Dieu, on commence où? On commence avec les green cards? Les green cards, ben, le premier exemple que Don Garber a donné, c'était l'exemple de Toronto, que Toronto ont été une des équipes les plus menaçantes, les plus dominantes, sans avoir de problème avec les green cards. Mais moi, à mon avis, oui, on s'attendait à une réponse comme ça de Don Garber, mais moi, c'est la réponse de Kevin Gilmore qui tout de suite a fait une introspection à son propre club en disant « Ben, nous, on a des joueurs, en parlant de Nacho Piatti, en parlant de Vitor Cabrera en grande partie, il y a des joueurs avec qui on aurait dû commencer ce processus-là depuis des années et on n'a jamais fait ça. Et si c'était de ça, on aurait plus de place internationale en ce moment. » Donc, moi, j'ai aimé cette réaction de Kevin Gilmore-là de dire ben, on est un peu en faute aussi. Et faut blâmer le personnel technique, Nick DeSantis, dans le temps, Matt Jordan et Joey Saputo de ça.
Faut blâmer le manque de vision à long terme de l'impact versus les capacités à avoir un avantage dans le futur pour leur alignement. Et c'est carrément ça. Et il y a eu la même introspection il y a quelques semaines aussi de Kevin Gilmore qui parlait des contrats de l'Impact de Montréal, à quel point il y a certains montants d'argent qui sont un petit peu gaspillés par rapport au temps de jeu que ces joueurs ont. Rudy Camacho, pour ne pas dire. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et aussi, je pense que c'est important de mentionner que ce n'est pas la faute de la MLS si le Canada en tant que pays n'a pas de moyens de faciliter le processus d'immigration d'un employé spécial comme aux États-Unis qui a différents moyens, mais avec ce qu'on appelle les cartes vertes, qui le processus du visa H3 ou choses comme ça, que lorsque c'est un emploi catégorie spéciaux qui n'a pas l'équivalent aux États-Unis comme un joueur de soccer talentueux, bien, votre processus d'immigration est accéléré. Il n'y a pas les mêmes choses au Canada et ce n'est pas la faute de la MLS si les lois d'immigration sont différentes d'un côté comme de l'autre. Et je pense que la réaction de Kevin Gilmore peut prouver un petit peu que si l'Impact fait du lobby avec le gouvernement ou avec un autre moyen, il y a possibilité de créer pour le futur soit un processus similaire ou au moins de trouver un moyen de convaincre ces joueurs étrangers lorsqu'ils sont ici depuis 3 ans
de faire application.
Et déjà depuis le début, parce que si tu n'écris pas ton intention au début, les 5 années ne sont pas comptées. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir. C'est facile de blâmer et de chialer contre les autres. C'en est un autre de voir ce qu'on peut apporter comme modification pour changer le tout.
Un truc que j'ajouterais sur ce point-là, c'est vraiment bien de voir Kevin Gilmore prendre position sur ces choses-là. Là, est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va voir les actions? Est-ce qu'on va le voir au sens propre? Est-ce que c'est juste être beau parleur ou est-ce que tu vas vraiment faire les actions sur ce que tu es en train de dire? Non, mais, c'est quelque chose qu'on va voir sur du long terme, mais ça va être intéressant de voir parce que Kevin Gilmore, ça fait quelques mois, là, c'est récent qu'il est le nouveau président de l'Impact, mais c'est encourageant. On reste voir s'il est capable de parler de walk the walk.
Ouais, il faut que les babines suivent les bottines. Exactement. Les bottines suivent les babines.
Un autre point que j'aimerais apporter sur Don Garber avant de finir, c'est un point qui a vraiment comme passé en dessous du tapis. Mais c'est Don Garber qui, à mon knowledge à moi, la première fois mentionné que la MLS va comme probablement commencer plus tôt encore dans les saisons à venir. Donc, est-ce qu'on se rapproche au début mars? Est-ce qu'on se rapproche à fin février?
Ça va être février. Ça va être mi-février, selon moi, pour terminer, peu importe l'année, Coupe du monde ou non, Gold Cup ou non, pour terminer début novembre.
Exactement. Donc ça pose un sérieux problème à l'Impact de Montréal. Un Impact de Montréal qui veut éviter de jouer au Stade olympique, on l'a vu cette année. Et là, on a un Stade Saputo qui, n'est pas opérationnel dans les mois d'hiver à cause de la plomberie.
Ou encore là, parce qu'on n'a pas eu du beau printemps et ça prend tout le soleil possible pour avoir le terrain prêt pour le début avril.
Et je te dirais que Rémi Garde, la pelouse du Stade Saputo ou du Centre Nutrilait, je vous dirais...
Qui a pas de pelouse pour l'instant.
Il appelle même pas ça du gazon. Là. À plusieurs reprises, Rémi Garde nous a dit... il nous l'a même pas dit du côté de la bouche ou rien. Là. C'était pas du gazon.
C'est un pâturage.
Là, Don Garber, qui l'a dit à la conférence, est-ce que ça veut dire il voudrait avoir un toit par-dessus le stade Saputo, une espèce de toit, peut-être quelque chose pour les intempéries, avoir un système de réchauffement pour la pelouse.
Je pense qu'un contrôle de l'environnement, de l'atmosphère pour le gazon est impératif pour
parce
le
que,
futur.
Parce qu'on ne peut pas jouer les 15 premiers matchs de la saison à l'étranger, c'est impossible.
Il n'y a aucun moyen de jouer en février non plus sans avoir les infrastructures qui vous permettraient d'avoir du gazon tout au long de l'hiver. Donc, un peu ce que Toronto a, mais il ne faut pas oublier qu'il y a environ 6 degrés de différence entre de moyenne entre le BMO Field et le Stade Saputo au long de l'année,
mais
surtout l'hiver.
Géographiquement, là. Kevin, le Toronto est beaucoup plus au sud que l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal est l'équipe la plus au nord. Là. C'est vraiment « we the north » à Montréal.
Nous sommes le nord.
Oui, c'est nous autres le nord. Mais tout ça pour dire que il va falloir faire quelque chose. Soit il va falloir accepter le fait qu'il va y avoir certains matchs au Stade Olympique. Il va vraiment falloir avoir des investissements. Et là, le problème des investissements vient sur le fait de comment on est taxé, comment l'Impact est taxé vis-à-vis les autres équipes de MLS.
Bon, vis-à-vis la ville de Montréal aussi. Parce
vis-à-vis
que
la ville de Montréal, exactement.
Un gros compte de taxes. Et déjà, Kevin Gilmour et Joey Saputo en ont discuté avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour voir quel crédit ou quelles possibilités ils ont de taxes foncières pour les prochaines années.
Parce que là, on peut pas faire comme les Expos et aller jouer à Porto Rico. Là, ça marche pas. Là. c'est un sérieux défi qui se présente à l'Impact de Montréal au niveau du stade.
Ouais,
et je sais pas si tu voulais finir là-dessus. Peut-être finir un petit affaire sur un quote de Don Garber que j'ai aimé sur ton premier point sur les vols non lisés. Il y a de l'intérêt à mettre beaucoup plus de vols non lisés, mais selon Don Garber, il n'y a pas tous les joueurs à qui ça intéresse. Il l'a dit clairement, il a dit, si tu donnes l'option à la prochaine convention collective, là, j'ai deux affaires pour toi. Soit je te donne plus de salaire, ou je te donne plus de vols non lisés. Je ne sais pas si les joueurs vont prendre plus de vols non lisés.
Non, ça je peux comprendre et ça sera un point de négociation de la nouvelle convention collective. J'ai mentionné à mon émission anglophone ce matin à Dwayne Rollins en parlant justement des vols non lisés que selon moi, le nombre en tant que tel n'est pas vraiment la solution, le doubler ou l'en faire moins, en faire plus. Mais je pense que chaque voyage devrait avoir un nombre de points accordés à ce voyage. Je pense que voyage Montréal-Toronto en avion devrait être traité un petit peu différent de voyage Montréal-Los Angeles en avion. Et je pense que d'avoir une banque de points d'avion analysés dans l'année, exemple, mettons, faisons un exercice facile, vous avez 100 points que vous pouvez utiliser dans l'année. Montréal-Toronto, c'est 20. Puis Montréal-LA, c'est 10. Fait que si vous voulez prendre un vol court, ben vous avez payé la conséquence de pas en avoir autant.
À la Weight Watchers.
Un peu, oui. Mais un peu, je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, les longs voyagements que vous avez... qui sont très difficiles à avoir et qui auraient 2-3 arrêts malheureusement durant le vol. Columbus, ça a l'air, c'est pas loin, mais pas grand vol Montréal-Columbus qui existe. Là.
Et surtout sur une semaine de 3 matchs.
Donc, on pourrait, exemple, mettons que vous avez les semaines à 3 matchs, vous utilisez un avion de l'Isée là, vous coûterez un petit peu moins cher que si vous utilisez une semaine qui est plus longue et vous avez un voyage en cours pour favoriser les voyages locaux, plus local côté économique, ouais. Côté, parce que c'est pas ça qui coûte cher. Et c'est pas vraiment ce qui fait une grande différence dans la préparation de l'équipe, que le voyagement vous prenne 2 heures ou 3 heures, pas une grosse différence. Mais lorsqu'on parle de voyage avec des escales, je pense que Montréal-LA, qui n'est pas toujours direct, et si vous le faites en voyage économique, ça ne sera pas direct, vous allez arrêter soit à Atlanta ou soit à Toronto, tout dépendant de quelle compagnie aérienne vous êtes avec. Je pense que moyen juste de repenser les vols non lisés et d'avoir peut-être un système de... Pour avoir quand même une évaluation égale entre les différents voyagements. Je pense que Atlanta qui voyage à Vancouver devrait être traité différemment de Montréal qui voyage à Boston.
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Et je pense que c'est le temps d'y penser. La nouvelle convention collective va arriver. On va avoir le temps d'en discuter aussi dans les prochaines semaines et d'ici la fin de la saison, lorsque cette convention collective commencera à être négociée. On doit se quitter. Nous devons aller à Blainville. Mais merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez suivre Tristan D'Amour, @TristanD'Amour, moi-même, @KevLaramy. Nous serons de retour la semaine prochaine sûrement, partout où vous trouvez vos balados de diffusion. Et ce soir, Blainville, York 9 au centre équestre de Blainville, Tristan y sera, j'y serai. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir nos commentaires et nous en parlerons lors de la prochaine émission. Mais pour Tristan, comme d'habitude, moi je suis Kevin et je vous souhaite bon soccer.